pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Je suis très très amoureuse moi de cette rivière et ça me fait un mal fou d'imaginer qu'on puisse la massacrer. Moi, je conseille à tout le monde de venir la voir. Enfin, c'est un endroit magique, c'est un bijou. C'est vrai que les gens ont souvent l'image d'une Picardie qui n'est que plate et faite de champs. Et en fait, on a plein de lieux très très beaux en Picardie et cette rivière-là, elle en fait terriblement partie. Elle est, il suffit de la regarder là, on est en train de la regarder, elle est vraiment très 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 belle. C'est tellement beau ici que c'est inconcevable de reboucher une rivière en fait. Ça paraît aberrant, on n'imagine pas que ce soit possible de reboucher une rivière.
Hélas, si, c'est possible, et c'est d'ailleurs le cas. Des criminels illuminés bouchent et tuent des rivières. Assassiner l'Oise, c'est le mortifère projet de cet horrible méga-canal de 107 km de long entre Compiègne et Cambrai. Projet à 10 milliards d'euros d'argent public dont on vous a déjà beaucoup parlé dans cette émission et on continue aujourd'hui sur un registre calme et sensible avec Hélène qui vit sur une péniche sur un bras de la vieille Oise menacée de destruction par le méga canal. Hélène, on l'a rencontrée lors d'une escale de l'expédition Bateau Labo qui navigue jusqu'à l'estuaire du Danube à bord de la Fillonnerie. Un chaland de Loire en bois parti en septembre 2025 de Région Centre en direction de la mer Noire. Et ça, c'est une aventure qu'on vous racontera dans d'autres émissions. Mais pour l'heure à suivre, vous voici donc en octobre 2025 sur l'Oise, à Longueuil-Anel, pas très loin de Compiègne, là où 15 jours plus tôt a eu lieu la grande mobilisation anti-méga-canal de septembre. Et c'est notamment de cette lutte dont Hélène va un peu vous parler aujourd'hui. Et quand on n'est que soi-même, avec des forces qui ne sont pas illimitées, lutter contre un énorme rouleau compresseur peut être compliqué et usant.
Début 2023, en fait, on a reçu une convocation des agents du canal Seine-Nord-Europe qui nous ont expliqué qu'ils allaient raser tout le bois, qu'ils allaient reboucher la rivière et qu'on allait devoir partir. Qui nous ont dit « c'est pas la peine de vous battre compte, de toute façon c'est acté, les enquêtes publiques sont terminées, ça a été validé, donc c'est parti ». Et on s'est un peu fâchés en fait, on a monté un tout petit collectif qu'on a appelé les citoyens de l'eau, et on s'est battu tout ce qu'on a pu pour essayer d'éviter ça.
Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est lavoixoff.com, et pour votre radio toujours libre préférée, il est encore tôt en ce beau dimanche d'automne. L'équipage du bateau labo dort encore à bord de la Fillonnerie qui est amarrée à la péniche d'Hélène. Et c'est pour ne réveiller personne qu'on va parler doucement au cours de cette heure qu'on va passer ensemble au bord de l'eau. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Qui a dit qu'il fait toujours mauvais en Picardie? C'est même pas vrai, c'est un merveilleux dimanche d'octobre, très ensoleillé, qui nous attend aujourd'hui.
Tout à fait.
Quel merveilleux endroit, j'ai envie d'utiliser l'adjectif paradisiaque, que ce bras de l'Oise là, où le bateau labo a accosté, à côté de ta maison flottante. On est où ici?
Alors on est à Longueuil-Anel, mais on est amarré sur la partie qui est restée sauvage de Longueuil-Anel, puisqu'on est amarré sur la vieille Oise qui n'est plus navigable, donc c'est très très calme ici. En face c'est le bois de l'écureuil, et donc on l'appelle le bras de l'écureuil, cette petite partie d'eau.
Tu as, je veux dire, le privilège, la chance, ou tu t'es donné la chance en tout cas, de vivre dans cet endroit absolument merveilleux. Donc il y a ton bateau, c'est une Fraissinet, non?
C'est une Fraissinet, effectivement.
38 mètres 50 de long sur 5 de large.
Sur 5 de large.
Converti en habitation. Derrière, on voit le mât du bateau labo, donc de la Fillonnerie, qui s'est amarré à couple à la Fraissinet. Et si on décrit le paysage, là, on est sur la rive droite de ce bras de l'Oise. Et il y a tout ce rideau d'arbres. Qu'est-ce qu'on voit en face de nous, de l'autre côté, sur l'autre rive?
On voit le bois de l'écureuil, et on voit cette partie du bois de l'écureuil pour laquelle on s'est battu, pour qu'elle ne soit pas abattue en 2023. parce qu'elle est juste magnifique, parce qu'elle regorge de faune et de flore et qu'elle nous protège du vent, elle nous protège du soleil. Enfin, voilà. Nous, on est venus s'installer ici pour ça, pour ce côté sauvage. Donc on s'est battu pour le conserver le plus possible.
Et t'arrêtes pas d'observer des animaux. Si tu me parlais de renards, tu parlais de martins pêcheurs, qu'est-ce qu'on voit encore?
Les martins pêcheurs quasiment en permanence, même s'ils sont très 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 rapides, donc il faut avoir l'œil pour les repérer. Les oiseaux, là, qu'on entend. On a effectivement un petit couple de renards qui s'est installé, donc on a abandonné une partie de notre petit bout de jardin pour les laisser tranquilles. On a des canards qui viennent nicher dans l'autre partie du jardin. Donc c'est marrant, tout ça, ça vit ensemble. C'est assez magique, en fait. Toute cette faune, toute cette flore, c'est vraiment magique.
Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert.
Pour commencer cette conversation, je te remercie de, bah voilà, de nous accorder un peu de ton temps et de ton accueil. Parce que les médias, les micros, les trucs comme ça, c'est vraiment pas ton truc.
Non, c'est vraiment pas mon truc, effectivement.
Mesurons bien la patience et l'accueil dont tu fais preuve ce matin pour venir parler de choses bucoliques et magnifiques, mais aussi de cette horrible affaire de méga canal et de méga scandale qui va aussi nous occuper pendant un petit bout de cette conversation. Est-ce qu'on peut monter à bord de ta maison?
Eh bien, bienvenue à bord.
On fait quelques pas sur ce ponton. Un petit portillon, et nous voilà sur le pont de ton bateau. Comment il s'appelle ce bateau?
Il s'appelle Marie-Pierre. Voilà, c'est son nom d'origine en fait. J'ai pas voulu lui retirer ça.
Ici, ça a été un outil de travail. C'était une péniche Fraissinet qui faisait du fret. Et quelle est son histoire à ce bateau?
Au moment où les mariniers voulaient partir à la retraite, à l'époque, mon mari et moi, on cherchait un bateau pour en faire un logement. J'étais enceinte de mon premier enfant quand on les a rencontrés la première fois, et en fait on a eu un coup de foudre à la fois pour le bateau mais aussi pour les gens qui étaient à bord à ce moment-là en fait. Donc c'était comme une évidence que c'était ce bateau-là.
Donc il était équipé pour trimballer du fret et machin, parce que là j'ai eu le privilège de venir visiter chez toi, c'est juste magnifique, vous avez fait un lieu de vie. C'est énormément de travaux pour convertir une péniche Fraissinet qui trimballe du vrac en maison flottante.
C'est une douce folie, c'est clair. Mais bon, c'est tellement agréable. Ça a mis, une bonne dizaine d'années, parce que j'ai même commencé les travaux plutôt seule. Et puis bon, après, avec des gens qui sont venus me donner des coups de main de temps en temps. Mais oui, les gens m'ont pris un peu pour une folle en me disant que c'était un petit peu trop gros pour une deuxième grossesse, pour le coup, et un enfant de 2 ans et demi à gérer en même temps que des travaux. Mais voilà, sans regret, parce que c'est tellement doux, en fait, la vie sur l'eau, que c'était une bonne chose.
Et c'est une surface habitable d'une centaine de mètres carrés, non?
Je dirais dans la cale, donc qui est notre maison, oui, entre 120 et 130 mètres carrés.
Ça coûte cher en taxes et tout ça de vivre ici?
Ça dépend vraiment du lieu où on a amarré. Nous, ici, ça va. La VNF ne nous demande pas un montant excessif.
Voies navigables de France, hein, VNF.
Les voies navigables de France, exactement.
Et j'ai posé la question à tes charmants voisins, Jean-Claude et Louisette, qui disaient en gros c'était une centaine d'euros par mois.
C'est ça.
Le droit d'être amarré, quoi.
C'est ça, une centaine d'euros par mois. Et puis, pour le jardin, parce qu'on a une chance incroyable d'avoir un petit bout de jardin ici, c'est une centaine d'euros par an en plus pour avoir l'usufruit de ce jardin.
Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau.
Pourquoi vivre ici? Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi la différence par rapport à être à terre? Pourquoi est-ce qu'on ressent un truc différent? Là, tu vois, on a traversé le ponton, on est arrivé sur le pont du bateau et déjà, il se passe autre chose. Comment tu parlerais de ça?
C'est pas évident. J'étais amarrée longtemps sur le canal, où du coup, on était très proche de la route, des maisons. de la vie humaine. Avec mon nouveau compagnon, il y a une dizaine d'années, on a eu envie de se retirer, d'être plus proche de la nature, d'être beaucoup plus au calme, de s'éloigner un peu des êtres humains pour se rapprocher un peu plus des oiseaux et puis de tout ce qu'on a de beau ici. On est arrivé un petit peu comme des pirates sur l'emplacement. On a mis un petit peu les voies navigables devant le fait accompli parce qu'on avait l'autorisation du maire et puis ça s'est fait. On a fini par avoir l'accord d'être ici réellement. C'est merveilleux, c'est vraiment un coin merveilleux.
Et le bateau, il peut encore bouger? Enfin, il est autonome, il a un moteur ou faut le tracter?
Il a encore son moteur qui fonctionne.
Il faut quand même faire une opération de carénage, il faut regarder si la coque est ok, a toujours la bonne épaisseur.
C'est tous les 10 ans en fait, donc pour nous ce sera l'année prochaine.
Donc il faut emmener le bateau à un chantier naval, le sortir de l'eau pour qu'il soit expertisé.
C'est ça, et nous on irait sans doute pas très loin d'ici, à côté de Noyon il y a un chantier naval. On irait là-bas, c'est un peu l'aventure en fait, parce que du coup on prévient les amis, la famille, et puis on se fait un petit tour en bateau jusqu'au chantier naval. L'expert passe. Nous, on a très très confiance dans ce bateau-là parce que c'est un bateau qui est, comment dire, une sorte de réparation de guerre. Donc, il a été entièrement fait en Allemagne et la ferraille à l'époque était vraiment très très bonne en Allemagne. Donc, la coque n'a pas bougé. J'ai jamais eu besoin de refaire quoi que ce soit sur le fond du bateau depuis sa fabrication en 57, celui-ci.
Ah oui, donc c'est c'est une vieille dame.
C'est une vieille dame.
Ça coûte un petit billet quand même, non, de cette expertise. Peut-être qu'il faut remettre un coup de peinture aussi. Enfin bon, voilà, il y a quand même des frais tous les 10 ans qui tombent.
C'est ça, en général, on compte entre 1 500 et 3 000 euros de frais pour remettre un coup de neuf au bateau, pour le passage de l'expert aussi, bien sûr. Mais bon, comme c'est tous les 10 ans, en le prévoyant d'avance, c'est un budget qu'on met de côté exprès pour ça.
Est-ce que tu veux bien nous faire visiter rapidement, nous accorder le privilège de visiter ton chez-toi par les oreilles?
Avec possible. Plaisir.
Là déjà, les premiers travaux, parce qu'il y a une volée de marches en bois pour descendre quoi, environ 1,50 m, une porte magnifique en train d'ouvrir. Ça c'est de la porte, hein. Elle est d'origine, cette porte-là, ou elle a été faite?
Non, elle a été fabriquée avec un morceau d'écoutille ancienne. Et le reste, voilà, comme ça. C'est une fausse porte blindée, hein. Elle est très impressionnante, parce qu'elle est toute en ferraille, mais voilà, elle est assez simple, en fait.
Très belle. Oh, il fait bon. Et on arrive dans cet espace qui est incroyablement chaleureux et accueillant. C'est chouette. Il y a des copains qui sont en train de se réveiller. Salut Sam.
Salut.
Waouh, vous avez fait un truc magnifique ici.
Merci.
C'est combien d'années de travaux tout ça?
Une bonne dizaine d'années.
Ouais, avec un poêle Gaudin qui rayonne de sa chaleur très douce. Un véritable cocon.
C'est ça, c'était l'idée.
Et les copains qui apparaissent pour le petit déjeuner, bonjour.
Bonjour.
Coucou Claude.
Bonjour, comment ça va?
Qu'est-ce qu'on voit les pièces là au fond?
Là-bas à droite, c'est la chambre de Lalo justement. À gauche, on va avoir nos toilettes. La porte qui est là juste à l'entrée quand on revient, c'est la salle de bain. Et donc là, c'est l'arrière du bateau. Et quand on se retourne, du coup, on a le salon qui est. On a fait tout ouvert, un peu loft, cuisine, salon, salle à manger, en une seule pièce. On aperçoit au fond une petite mezzanine qui sert un peu de lit, cabane et de chambre d'amis. Et derrière, on a encore deux chambres. On en a une là sur la droite et un petit passage sous la mezzanine qui donne sur une dernière chambre.
Pour l'eau, c'est comment?
Pour l'eau, on prend l'eau de la rivière et elle passe dans des filtres.
Et vous pouvez la consommer?
Alors, on peut se laver les dents, ouais. On peut faire cuire des légumes, mais pour boire de l'eau, on est obligé de se fournir en eau autrement parce qu'on n'est jamais trop sûr des bactéries qu'il pourrait y avoir. Donc,
Et pour l'électricité?
On est branché à un compteur nomade.
Ok, d'accord. Voilà. Pas de panneaux solaires? Enfin, pas encore?
Non, pas encore étudié.
Okay, d'accord. Écoute, on va laisser les copains prendre le petit déjeuner et ressortir. Et retrouver le froid de l'extérieur.
C'est sûr qu'avec le froid, il fait doux à la
fois. On remonte sur le pont avec cette petite volée de marche. Voilà, et on tombe sur ce paysage absolument magnifique. Là, on regarde donc vers l'amont de ce bras de l'Oise. Il y a beaucoup de choses qui sont menacées par ce projet mortifère, écocidaire et ce scandale financier du méga-canal. Ce lieu de vie, là, il est menacé.
Oui, tout à fait. En fait, ici, on aperçoit donc la rivière en amont et la vue s'arrête à un petit virage. Dans ce virage, juste après ce virage, le canal va passer. Et donc cette partie de rivière...
Devrait passer.
Et cette partie de rivière, ils ont l'intention de la reboucher. De la reboucher donc complètement à certains endroits et sur la moitié, là où on est amarré, pour laisser la place au bateau, mais dans une eau qui serait morte si jamais on coupe la rivière. Et en détruisant, du coup, tous les habitats qu'on a en face, là, qui abritent les martins pêcheurs, les ragondins, les canards, voilà, tout ça ne serait pas respecté du tout. Enfin, serait détruit, en fait. Ils ont l'intention de mettre des pales-planches et puis de faire une sorte de marécage sous prétexte de compensation environnementale. Je déteste ce mot-là. Voilà, c'est une compensation environnementale de détruire tout un écosystème, d'après ces gens-là.
Mais ils veulent boucher. C'est quoi des pales-planches ? Une espèce de palissade aquatique, quoi.
C'est ça, en gros, on pourrait expliquer ça comme ça. Ouais.
Je pensais qu'ils voulaient mettre des cailloux, moi.
Non.
Boucher.
En fait, ils vont vraiment couper la rivière en deux en insérant, j'imagine, des grands piquets et ce qu'ils appellent les pales-planches, à qui va venir boucher l'eau sur la longueur.
Du coup, cette eau, elle deviendrait stagnante. Enfin, ça deviendrait ce qu'on appelle un bras mort.
C'est ça. Ça deviendrait un petit bout de rivière en eau morte, quoi. Ce qui ne va pas du tout avec une rivière.
Donc, ça voudrait dire eau stagnante, moustique.
C'est ça. Alors qu'on n'en a pas du tout, hein, ici. Oui. Les gens nous posent tout le temps la question. Et en fait, quand l'eau coule, les moustiques ne s'installent pas. Donc, on est très préservé de ça ici. Et là, on le sera beaucoup moins. Je pense qu'effectivement, s'ils en arrivent à reboucher cette rivière... La vie ici va être beaucoup moins agréable, et pas que pour nous, en fait, pour les habitants là, de la vieille Oise. C'est parce qu'on a quelques maisons là au-dessus du bateau, et même pour eux, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué.
Quand est-ce qu'ils envisagent de boucher, de tuer,
de massacrer
ce bras d'Oise ?
Aux dernières nouvelles, on est censé bouger en avril 2026 pour qu'ils puissent attaquer cette partie-là de leurs travaux. Donc on irait sur le canal en attendant. On attend leur dernière nouvelle et on espère chaque fois. Parce que normalement, ça aurait dû être septembre 2025. On les revoit là au mois de décembre. On est toujours dans l'espoir qu'ils nous disent « Bon, on a encore pris du retard. Ça va peut-être reculer encore de 6 mois. Enfin, » on est un peu en sursis. On se sent vraiment en sursis ici.
Ou qui disent peut-être « Bon, on a fini par percuter que ce projet n'a aucune viabilité économique. »
Ce serait merveilleux.
Parce que c'est quand même le cas.
Ouais, et que c'est tellement beau ici que c'est inconcevable de reboucher une rivière, en fait. Ça paraît aberrant, on n'imagine pas que ce soit possible de reboucher une rivière.
Je connais des gens qui affardeux, qui tout le temps se font des cheveux, et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert.
J'ai cru comprendre, mais arrête-moi si je dis une bêtise, qu'en excavant enfin les milliers de tonnes de mètres cubes de matériaux de leur méga canal, que leur remblai ou enfin ce qu'ils vont extraire, ils veulent reboucher la vieille Oise avec ce qu'ils vont extraire, c'est ça ?
Alors ça, c'est la première version qu'ils nous avaient donnée. Et là, ils sont un peu revenus là-dessus, mais en même temps, je pense que oui, c'est vraiment le remblai du canal qu'ils vont nous mettre là dans l'eau.
Dans leur délire, il serait aussi question d'utiliser ce remblai pour un projet de gigabassine grande comme 22 fois Sainte-Soline pour alimenter le méga canal. Ce serait la fin de la rivière, il n'y aurait plus d'eau.
Il n'y aurait plus toute cette merveilleuse faune, cette merveilleuse flore. Alors ils veulent mettre des petits nichoirs pour les martins pêcheurs, mais bon, autant ne pas toucher. Ils sont là, ils sont déjà installés. En fait, on n'a pas besoin de venir leur créer un petit immeuble alors qu'ils ont leur maison au naturel.
Pendant que tu parlais, j'ai vu une fulgurance bleue électrique passer là dans mon champ de vision. Je crois bien que j'ai vu un martin pêcheur.
C'est ça, c'est les petits bijoux qu'on a ici.
Ils sont rapides, hein.
Ils sont très rapides. C'est leur couleur là qui en fait des petits joyaux et qui fait qu'on arrive à facilement les apercevoir. Mais on n'a pas le temps de dire tiens, regarde un martin pêcheur qui est déjà parti trop loin.
Là, on parle de ce coin, de ce bras de l'Oise, mais en fait, ça va être la même affaire sur toute l'Oise, comment on dit, la vieille Oise, l'Oise traditionnelle, enfin, celle qui existe et qui continuera à exister, parce que ce projet va forcément foirer, il ne verra pas le jour. Mais en fait, leur projet mortifère, c'est ça, ça veut dire aussi enfin, que ça va être la fin de la cité des bateliers, il y aura plus de l'Oise, il y aura quoi, un lit de vase avec des moustiques?
C'est un peu ce qu'on craint, effectivement. Là, ils ont déjà commencé à la détourner du côté de Montmac. Là, ils l'ont déjà bien abîmée donc en amont. Et ici, à Longueuil-Annel, leur projet, en fait, en gros, c'est quand ils auraient fini le méga-canal, eh ben, la VNF abandonnerait l'ancien canal existant aux communes. Et c'est un poids beaucoup trop lourd financièrement pour la plupart des communes. Donc, en plus, on se retrouverait probablement avec le canal qui serait à terme rebouché. Et donc la cité des bateliers, ce serait une cité sans canal et sans rivière, donc une cité en eau morte, effectivement.
On peut dire que tu es très impliquée dans la lutte contre le méga canal.
Je suis, on va dire, très très touchée par cette histoire de grand canal. Au début, j'étais très très impliquée. J'ai eu une petite période où j'ai baissé les bras, en fait, un peu, et là, je reviens un petit peu plus forte, un peu plus émue par le nombre de personnes qui se mobilisent autour de ça.
Et au moment où on se parle, donc il y a eu, c'était il y a deux week-ends de ça, cette grande mobilisation contre Mégacanal qui a fait venir des gens du coin, mais aussi des quatre coins de la France. Près de 2000 personnes hein, sont venues manifester et participer à ces temps de vie, c'était très chouette.
Et c'était à 300 mètres d'ici, et c'était très 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 touchant, ouais.
Toi qui es du coin, t'interagis avec tes voisins, tes voisines, les gens du coin. On sait que ce projet, il plane dans les airs depuis des décennies. Il est presque installé dans la tête des gens. Il y en a qui croient que c'est fait. J'ai eu quelques conversations comme ça avec des gens le long de notre trajet. Ce qui ressort beaucoup, c'est que ça semble inéluctable. C'est que, bon, oui, c'est dramatique, c'est mal foutu. Il y a ce truc qui est attristant quand on discute un peu avec les gens. Ça semble inéluctable, c'est complètement débile comme projet. Il y a déjà deux ou trois mariniers qui m'ont dit « Mais de toute façon, il n'y a qu'une écluse, il va y avoir des bouchons de bateaux. » Le gars qui va descendre de Rotterdam avec sa super péniche, la pleine de containers, il reviendra qu'une fois, parce qu'après avoir poireauté pendant des heures à l'écluse, il reviendra pas, parce que le projet, il est mal gaulé. Ça, c'est une conversation que j'ai eue avec des mariniers qui disaient, bon, voilà, ce projet, il est débile, on va se faire défoncer par la concurrence étrangère, il va y avoir des bouchons à l'écluse, ça va coûter un bras, enfin, 10 milliards d'euros pour le moment. Mais il y a ce truc un peu inéluctable de « bon, bah de toute façon, ça va dans ce sens-là, et puis ils font bien ce qu'ils veulent, et puis on n'a rien à dire
». C'est un peu le problème, je dirais, de Longueuil-Annel. C'est une cité où, en fait, c'est beaucoup de mariniers à la retraite qui viennent s'installer. Et se battre contre ça, ça leur paraît vraiment compliqué, parce qu'effectivement, pour eux, c'est acté. Je ne vais pas dire qu'ils sont résignés, mais presque, parce que je pense qu'ici, tout le monde est triste de ce qui va se passer. Mais c'est compliqué, voilà, c'est compliqué parce que la vie n'est pas simple, parce que c'est pas des gens qui roulent sur l'or et que c'est peut-être compliqué pour eux d'imaginer pouvoir se battre pour sauver ce qu'ils ont. C'est vraiment le gros souci justement d'essayer de mobiliser les gens contre le grand canal, c'est vraiment ça, cette sensation de que c'est perdu et que c'est pas la peine de perdre de l'énergie à dire non en fait.
Alors que souvent, ces gens sont mariniers et marinières depuis des générations, que ces canaux, c'est leur outil de travail, que ces bateaux, c'est leur outil de travail, c'est leur mode de vie. Et c'est une conversation que j'ai souvent eue avec les gens. Je dis, mais ça vous fait rien quand même de voir que vos aïeux, vous, enfin, vous avez passé toute vos vies à travailler, et puis sur un outil qui fonctionne.
Au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
vous êtes toujours avec Hélène, qui nous accueille en ce dimanche d'octobre 2025 sur sa péniche Fraissinet, amarrée dans un bras de la vieille Oise. Hélène, mère de famille, artisane, n'était pas une militante chevronnée quand elle a décidé de s'opposer au mortifère projet de méga-canal qui menace le petit paradis où elle vit. Militantes et militants ne sont ni sur femmes ni sur hommes, mais de simples humains. Et lutter à main nue contre un énorme rouleau compresseur, c'est pas simple et c'est exténuant, notamment quand on veut servir de trait d'union entre des artisans mariniers et des militants écolos, parfois donneurs de leçons. Le projet y plane dans les airs depuis des décennies. Quand est-ce que la menace s'est vraiment concrétisée pour toi et devenue plus tangible ?
Nous, on ne l'avait pas vu venir parce qu'en fait, l'enquête publique s'est faite à la fin du Covid. Donc, on est complètement passé à côté. On venait de vivre un truc assez spécial. Donc, on n'a pas fait du tout attention. Début 2023, en fait, on a reçu une convocation des agents du canal Seine-Nord-Europe qui nous ont expliqué qu'ils allaient raser tout le bois, qu'ils allaient reboucher la rivière et qu'on allait devoir partir. Qui nous ont dit, c'est pas la peine de vous battre compte, de toute façon c'est acté, les enquêtes publiques sont terminées, ça a été validé, donc c'est parti. Et on s'est un peu fâché en fait, bah, justement avec les voisins que tu as dû rencontrer, on a monté un tout petit collectif qu'on a appelé les citoyens de l'eau, et on s'est battu tout ce qu'on a pu pour essayer d'éviter ça. Quoi, parce qu'on...
Alors battu pacifiquement, hein.
Absolument.
Battu ça veut dire démarche administrative, réunion publique, enfin... que c'est battu
On a contacté toutes les associations possibles et imaginables de protection de l'environnement, des gens impactés, les pêcheurs, les gens des joutes, parce qu'on a des joutes à Longuayanais, là, sur ce bras mort un peu plus loin. On a essayé de contacter un maximum de personnes en disant « mais il va se passer ça, personne ne réagit, comment ça se fait ?» Ça nous paraît aberrant qu'il n'y ait pas de réaction. Et puis, en contactant un jour les soulèvements de la terre, ils m'ont mis en contact avec les canals Lontmercy de Compiègne, qu'on a rencontrés également. Et c'est là où ça a été un petit peu compliqué, c'est qu'on se retrouve avec deux mondes, en fait. On se retrouve avec la Batellerie et les canals Lontmercy. Et puis, moi, au milieu, qui avait l'impression d'être un peu le petit trait d'union qui n'a pas tenu, en fait, parce que c'est... Je ne sais pas comment expliquer, c'est très compliqué de... C'est assez bizarre, d'ailleurs, mais de réunir des gens qui ne veulent pas de la même chose... qui sont d'accord, normalement, mais qui ne sont pas d'accord, des fois, sur la manière de faire, ou sur, je ne sais pas, la politique, ou sur, et qu'on a du mal à mobiliser ensemble. Et voilà, ça a été très, très, très compliqué. Et on n'a pas réussi, d'ailleurs,
Pour le moment,
à réunir cette belle batellerie qui est ma famille de cœur, hein, parce que moi, je suis depuis 20 ans sur l'eau, et ils m'ont accueilli les bras ouverts. C'est vraiment une famille, la batellerie. Mmh. Et puis cette partie de personnes qui veulent protéger le vivant, mais qui ne se sont pas trouvées sur des mots, en fait, peut-être. Je ne sais pas comment aborder cette conciliation entre ces deux mondes.
Je découvre ce monde que je ne connais absolument pas, qui est celui de la batellerie, au risque de dire des choses inexactes. Ces bateliers, ces batelières, en fait, il y a déjà ce vieux conflit, cet antagonisme, mais qui date depuis toujours, et là pour la batellerie, depuis quasiment deux siècles, entre les sédentaires et ce monde batelier qui est comme on considérerait les gens du voyage aujourd'hui. Et puis aussi peut-être ces bateliers-batelières, ce sont des petites entreprises, donc il y a l'esprit aussi artisan, indépendant, un mode de pensée qui est celui de l'entrepreneuriat, des artisans indépendants. Peut-être que ça colle pas forcément avec des défenseurs de la nature, des écolos, pire, des soulèvements de la terre, des trucs comme ça. C'est peut-être aussi pour ça que le dialogue, il n'est pas facile à établir. Il y a vraiment deux mondes, deux cultures qui ont du mal à communiquer pour le moment. Quoi.
Ben c'est ça, en fait, chaque bateau est une entreprise. C'est souvent un couple qui arrive à avoir sa toute petite entreprise comme ça. Ils se sont quand même toujours sentis un peu le parent pauvre du transport, ceux qu'on ne respecte pas vraiment, ceux qu'on paye difficilement. C'est très rarement des gens qui financièrement s'en sortent très très bien, en tout cas pour les entreprises qui tournent encore sur des Fraissinets, ça peut être très compliqué. C'est clair qu'ils ont l'impression que les gens qui se battent pour la nature ne la connaissent pas aussi bien qu'eux, en fait, parce que quand on parle un peu avec eux, ils sont incroyables, l'eau, ils la connaissent. Et pour autant, quand ils parlent avec les agents du canal, ils se sentent encore plus,
méprisés.
Ouais, rabaissés, méprisés, parce que, effectivement, ils n'ont pas fait de grandes études. Ils n'ont pas fait de grandes études, mais ça, c'est vraiment pas quelque chose d'important, à mon sens. Ils ont une intelligence et une maîtrise du sujet de l'eau qui est générationnelle chez eux, donc ils sont très, très intéressants à écouter. Et c'est vrai qu'ils le sont trop peu, vraiment trop peu.
Cette population de travailleuses, de mariniers et de marinières est ostracisée depuis toujours. Enfin, c'est des gens du voyage, qui voyagent sur l'eau, pas en roulotte. Ces gens ne sont pas aimés par les sédentaires, par ceux qui sont à terre et que ça se passe pas bien. Alors c'est pour ça qu'ils ont eu leur bateau église avec un centre administratif, que scolariser les gosses, c'était compliqué, enfin que tout était compliqué. J'ai cru comprendre que voilà, il y a aussi une espèce d'ostracisme, de mésamour vis-à-vis de ce corps de métier, de cette profession, qui a amené ces gens aussi à être pas mal repliés sur eux-mêmes et à se méfier aussi de ce qui n'est pas eux. Quand tu es rejeté pendant 2 siècles, au bout d'un moment, tu prends des réflexes de défense.
On n'est vraiment pas loin de ce qu'ils ressentent, en tout cas, très clairement.
Ce qui fait que quand il y a des écolos qui déboulent pour leur expliquer la vie, effectivement, ça...
Donc pour eux, c'est des petits bobos bourgeois qui connaissent rien et c'est très compliqué. Alors qu'en fait, on les a fait se rencontrer, que quand ils rencontrent certains qui leur parlent doucement et pas avec véhémence et pas avec une sensation de savoir mieux qu'eux, la rencontre, elle se passe toujours très très bien. C'est contrairement à ce qu'on croit... Ils sont très très accueillants. Moi je suis arrivée sur le bateau il y a 20 ans, j'étais une d'ater, parce que c'est comme ça qu'on dit. Mm-hmm. J'arrive sur le bateau et en quelques mois je faisais partie de leur communauté, alors que je ne suis pas batelière, moi je suis pénicharde, je n'ai jamais travaillé avec le bateau.
Pénicharde.
Ah, ouais, c'est pas très joli comme terme.
Oh, oui, bon. C'est...
Je ne suis pas une marinière, je sais conduire un bateau jusqu'à 21 mètres, mais pas une fraissinée de 38 mètres de long, je n'ai pas le permis pour ça. Voilà, moi, je les trouve merveilleux, je les trouve très accueillants, je trouve ça dommage. De toute façon, c'est ce que je crois qui me fatigue beaucoup aujourd'hui dans la société, c'est tous ces clivages qu'on a. Quand on se rend compte, ça se passe très bien, et puis pour autant, c'est une succession de clivages qui sont, à mon sens, complètement injustifiés, de ces préjugés qu'ont les uns envers les autres. Est très faux.
Je reviens aussi sur la connaissance intime du milieu, de l'outil de travail, etc., pour avoir discuté avec quelques bateliers à la retraite qui ricanaient en fait sur le projet de Venève. Ils disent, bon, je reviens à cette histoire d'écluse, par exemple, où il y aura des bouchons monstrueux, etc. De toute façon, leur projet, il a ni queue ni tête, ça marchera jamais, enfin, c'est mal foutu. Ils nous consultent pas parce qu'ils se pensent plus intelligents que nous. Ils font leur truc sur ordinateur, là, clic-clic, on fait un trou là sur écran. Mais en fait, dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça. Et en fait, la connaissance du milieu, ces gens-là, ils l'ont, puisque c'est leur outil de travail et leur mode de vie. Et en fait, ils ne sont pas consultés. On s'en fout de leur avis, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, de leur connaissance.
À mon sens, c'est même pire que ça. Ils ont annoncé cette année qu'ils allaient, à la fin des travaux, fermer le canal du Nord pendant au moins 18 mois. Et ça veut dire qu'en fait, on achève définitivement la petite batellerie française aux dépens de la grosse batellerie allemande et belge. Et là, ils commencent à prendre conscience de ça, mais... Voilà, ils se sentent trop peu écoutés depuis trop longtemps pour avoir l'impression qu'on va se battre pour protéger ce petit bout de trésor, parce que c'est le transport sur l'eau.
On l'a abordé avec Hélène, ce monde à part de la marine fluviale traditionnelle avec ses péniches fraissinées est mal aimé, peu connu, peu raconté.
Les mariniers me voient vieillir, je vois vieillir les mariniers. On joue au jeu des imbéciles où l'immobile est le plus vieux. Dans mon métier, même en été, faut voyager les yeux fermés. Ce n'est pas rien d'être éclusier. «
Les mariniers savent ma trogne, ils me plaisantent et ils ont tort. Moitié sorcier, moitié ivrogne, je jette un sort à tous qui chantent. Dans mon métier, c'est en automne qu'on cueille les pommes et les noyers. Ce n'est pas rien d'être éclusier. Dans son panier, un enfant louche pour voir la mouche qui est sur son nez. Maman ronronne, le thon soupire, le chou transpire, le feu ronchonne. Dans mon métier, c'est en hiver qu'on pense au père qui s'est noyé. Ce n'est pas rien d'être éclusier. Vers le printemps, les marinières me font des manières de leur chaland. J'aimerais leur jeu sans cette guerre qui m'a un peu trop abîmé. Dans mon métier, c'est au printemps qu'on prend le temps de se noyer.
L'éclusier de Jacques Brel, pour évoquer ce monde de la marine fluviale menacé de mort par le projet de méga canal qui remplacerait et tuerait les traditionnelles péniches Fraissinet par des méga-péniches longues comme deux terrains de foot et de 11 mètres de large. Méga-péniches qui navigueraient sur une autoroute fluviale de 107 km de long entre Compiègne et Cambrai. On en parle aujourd'hui avec Hélène qui nous accueille en ce matin d'octobre sur la péniche où elle vit, dans un bras de la Vieille Oise. Est-ce qu'on pourrait se mettre un petit peu au soleil, là, au nez du bateau? Là, je commence à peler un peu.
On va passer par là.
Parce que ça glisse moins, c'est ça?
Exactement.
Voilà, donc on marche un peu sur le pont du bateau, en faisant attention quand même, parce que c'est bien humide et que ça pourrait glisser. Et c'est long, hein. On vous rappelle, une Fraissinet, c'est 38,50 m de longueur. Ah, on arrive au soleil. Voilà, et nous voilà au nez du bateau, juste à côté de la péniche des voisins. Bon, on n'est pas plus au soleil que tout à l'heure, en fait. Tu disais fin de confinement, donc 2023, là, ça commence à prendre langue, à s'agiter, à se rencontrer. Toi, tu les connaissais pas, en fait, les méga canals Non Merci? Ils existaient déjà avant?
Alors, c'était les canals Non Merci. Je crois que méga canal Non Merci s'est créé un peu après, je pense. Et non, j'avais déjà aperçu quelques tracts à droite à gauche, mais je ne savais pas comment les contacter eux spécifiquement. Donc c'est vraiment les soulèvements qui m'ont mis en contact avec eux.
Et d'ailleurs c'est chouette parce que c'est aussi une manière de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, des horizons quand même assez variés. Ah, un petit rayon de soleil.
Ça fait du bien. C'est une succession de très belles rencontres. de tout. Hein. Le rassemblement d'il y a 15 jours moi, m'a vraiment fortement émue, parce que c'est enfin sentir qu'il y a un rassemblement contre ce projet qui commence à se mettre vraiment sérieusement en place. Et ça amène forcément de l'espoir. Voilà, l'espoir qu'on avait perdu ici. Où moi, j'avais plus la force. J'avais l'impression qu'on était vraiment seuls. Puis que je n'arrivais pas à réunir les gens que j'aime ensemble contre ça. Et voilà, donc c'était vraiment très, très émouvant, vraiment très chouette.
Pour en avoir discuté avec certaines de vos copaines de Mégacan d'Allemand Merci, qui disaient, on nous avait dit il y a un an, en 2024, qu'on réussirait un an plus tard, en septembre 2025, à rassembler 2000 personnes venues des quatre coins de la France, on n'y aurait pas cru.
C'est exactement ça. C'était très beau.
Et méfiez-vous, hein, vous n'êtes pas à l'abri d'accueillir des milliers et des milliers de personnes, parce que cette lutte, elle est emblématique de ce qui se passe partout sur le territoire national. En fait, c'est pas juste cette méga horreur de 107 km de long, c'est que ce qui se passe chez vous, c'est ce qui se passe partout sur le territoire français. Alors, on se souviendra de l'aéroport inutile de Notre-Dame-des-Landes, qui a été une lutte victorieuse d'ailleurs, semble-t-il. Les projets autoroutiers ou routiers inutiles, en fait, c'est que cette petite chanson-là, du méga canal, on l'entend partout sur le territoire. C'est-à-dire, il y a des bétonneurs qui passent en force. Avec un peu de chance, des citoyennes et des citoyens ne broncheront pas et seront mis devant le fait accompli. Bon, s'il y en a qui bougent et qu'un tribunal administratif finalement décide de la non-utilité publique du projet, il sera déjà réalisé. Et on passe en force et on s'en fout de la justice et on y va, quoi. Que ce soit chez vous, que ce soit ailleurs, en fait, c'est toujours la même chanson. C'est on bétonne et on engraisse des bétonneurs, des marchands de béton au passage. Là, en l'occurrence, vous, Bouygues, Vinci, qui sont très contents de racler 10 milliards d'euros d'argent public pour un truc qui sert à rien. Et dont ils ne veulent pas de l'exploitation d'ailleurs. Bouygues et Vinci ont bien compris qu'ils veulent bien couler le béton et être payés pour ça. Mais par contre, ils ont compris qu'il n'y a pas de viabilité économique au truc. Donc ils laisseront la gestion à d'autres. Ça ne les intéresse pas.
C'est la VNF qui prendra la gestion, entre guillemets, je crois, du méga canal.
Donc de l'argent public, encore.
Voilà, encore. Ouais.
Bon, c'est l'espèce d'adage, là, plus c'est gros, plus ça passe. Et bon, 10 milliards d'euros, ça fait combien de baguettes de pain? Enfin, c'est pas concevable. Mais moi, de ce que j'ai cru comprendre de ce projet du méga canal, son utilité, c'est juste engraisser Bouygues et Vinci avec 10 milliards d'argent public. Je ne vois pas d'autres fonctions à ce truc.
On n'en voit pas d'autres non plus, clairement.
Donc c'est les copains Xavier Bertrand et compagnie là, qui vont être contents.
Encore une fois. On est encore dans ce genre de choses, ouais.
Et là, on parlait de la mobilisation d'il y a 15 jours. Tu as eu des nouvelles des copains qui ont organisé tout ça? Parce que c'est quand même un très bel événement. Il y en a qui devaient être sur les rotules, non?
Je pense qu'ils ont besoin de se reposer un peu après ça. Parce que c'est énorme à organiser. Ils ont organisé la chose de manière admirable. C'était vraiment incroyable. Enfin, mais tout. Hein. Moi, j'ai vachement apprécié le travail de la cantine. J'ai trouvé ça vraiment chouette. En plus, moi, j'adore cuisiner, donc j'étais admirative de ce qu'ils sont capables de faire en quantité et en qualité en même temps. Et puis tout, enfin, trouver les barnums, réunir les chaises, vraiment une organisation incroyable. Et j'imagine qu'ils sont très fatigués et je leur souhaite de s'en remettre très très vite et puis qu'on reprenne avec de plus en plus de soutien. Et j'ai vraiment envie de leur dire merci pour tout ça, c'était incroyable.
On a déjà un petit peu discuté les jours précédents, hors micro. Dans ton expérience et dans ton vécu, il y a, je crois, quelque chose qui pourrait rendre service à d'autres. Tu me vois venir?
Je crois que
Et bon, alors si t'as pas envie de partir par là, parce que c'est trop perso, tu me dis, hein, ouvrez les guillemets, le burn-out militant. Tu m'as dit à un moment, si la manif d'il y a 15 jours, ces 8 km de marche avaient eu lieu il y a un an, j'aurais pas pu les faire.
Pas pu physiquement, en fait, parce qu'en plus d'être... épuisé par cette lutte, mais vraiment épuisé. J'ai eu des soucis de dos qui fait que je ne pouvais pas marcher il y a un an. Je marchais 500 mètres et je ne pouvais pas faire plus. Donc là, j'étais vraiment ravie de pouvoir faire les 8 km de la manif, même s'il m'a fallu 10 jours peut-être quand même pour m'en remettre au niveau du dos. Mais non, le burn-out, c'était... Et c'est marrant parce que c'est la première fois de ma vie que j'en fais un. J'en ai jamais fait ni dans le travail, ni dans aucune partie de ma vie. Et ça m'est tombé dessus là par rapport à ça. C'est pas que je me résignais, mais je ne supportais presque même plus d'en entendre parler, comme si je me mettais dans le déni pour me protéger, parce que je suis très très amoureuse moi de cette rivière et ça me fait un mal fou d'imaginer qu'on puisse la massacrer. Moi, je conseille à tout le monde de venir la voir. Enfin, c'est un endroit magique, quoi. Elle est très peu navigable, donc on peut y faire du paddle, du canoë.
S'y baigner.
On peut s'y baigner. Bon, là, elle est un peu fraîche en ce moment, oui, mais oui. Sinon, on peut s'y baigner.
Oui, mais il y en a que ça n'a pas refroidi il y a 15 jours, hein, soit dit en passant.
C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, voilà, c'est pas la meilleure période pour la baignade, mais voilà, c'est un bijou. C'est vrai que les gens ont souvent l'image d'une Picardie qui n'est que plate et faite de champs. Et en fait, on a plein de lieux très très beaux en Picardie. Et cette rivière-là, elle en fait terriblement partie. Elle est, il suffit de la regarder là. On est en train de la regarder. Elle est vraiment très 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 belle. L'idée qu'on puisse l'assassiner sans qu'il y ait de réaction plus que ça, j'ai perdu pied là-dessus. J'ai vraiment fait un épuisement, presque une dépression. Donc j'ai un peu lâché là. Je me suis mis en fort retrait de tout ça. Le temps d'aller mieux, moi aussi, le temps de me sentir la force de réagir de nouveau sur ce sujet. Ouais, je trouve aussi que ce serait important d'en parler parce que c'est presque tabou, en fait. On n'a presque pas le droit de craquer. Personne ne m'a reproché directement, mais j'ai senti que ça décevait du monde, le fait que je prenne du retrait. Mais
c'est pas un truc que tu t'es raconté. T'es sûre vraiment que les gens t'en veulent d'être épuisée?
Je pense que c'est probablement moi qui vivais mal le fait de plus me battre aussi, hein. Et voilà, ça a été une période très compliquée, une période où j'arrivais pas à mettre de mots là-dessus. En fait, il m'a fallu un peu de recul pour me dire, mais en fait, là, t'as craqué, c'est tout. C'était trop lourd, c'était trop dur. Alors que c'était le moment où ça commençait à prendre, justement, la mayonnaise, et que j'aurais dû me dire, ah tiens, ça prend, ça fait du bien. Mais voilà, vraiment un moment où je pouvais plus.
Et je pense à un ami très impliqué dans plein de luttes, qui a vu le truc venir en disant, je suis épuisé, je sens que je vais craquer, mais j'y vais encore. Parce qu'avec ce truc de, oh, le monde va s'écrouler, et la lutte va s'écrouler si j'y suis pas. Ce truc que tu as mentionné là, culpabilité de, voilà, si j'abandonne la lutte va s'écrouler, et en plus on va m'en vouloir. Mais il n'y a rien d'honteux à être épuisé en fait.
Ouais, moi je ne l'ai pas vu venir en plus. C'est-à-dire que moi ça m'est tombé dessus, c'est que d'un seul coup, je me suis presque levée le matin en me disant, je vais profiter de ce lieu tant qu'il est là, en étant vraiment dans le déni, quoi. En oubliant tout ça et en... Non, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Le coup de massue, il m'est tombé dessus, quoi, clairement. J'en parlais avec les copaines là, aux alentours, que je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on se réunisse pour en parler, pour pas que les uns et les autres craquent, les uns après les autres craquent aussi, qu'ils entendent qu'on peut se mettre un peu en retrait, que c'est pas grave, là, il y a suffisamment de monde pour que ça tourne, en fait, aussi, et qu'on puisse faire une pause. Mais je pense que je vais essayer d'en proposer un atelier.
Si on veut que la lutte gagne, est-ce qu'on n'a pas le devoir, en tant que militante et militant, de se préserver soi-même? Parce que quand on est tout cassé, on n'y apporte rien à la lutte, en fait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le devoir de se préserver, de garder ses forces opérationnelles? Parce que, voilà, une fois qu'on est tout cassé, on ne sert à rien.
Ouais, une fois qu'on est tout cassé, une fois que la massue elle est tombée, c'est pas qu'on se retire, c'est qu'on est retiré en fait par la force des choses. Et alors qu'il faut énormément de bienveillance là, les uns envers les autres pour tenir. C'est vrai qu'avec l'épuisement, avec la sensation de se battre contre Goliath, quoi, c'est ça, on peut vite perdre pied.
Comment est-ce que tu comptes partager ton expérience? As-tu parlé d'un atelier ou d'une table ronde?
Pourquoi pas une table ronde avec les gens de Compiègne et ailleurs? On a refait des petits groupes un peu plus locaux pour discuter de choses et d'autres. Je pense que ce serait pas mal, ouais, de discuter. Faire un peu comme on a fait là, de passer du bon temps ensemble à manger de bonnes choses et à partager voilà, un bon repas, un bon vin, et des discussions, et puis d'en parler en toute bienveillance comme ça.
Et puis un autre truc que tu as pointé, puis j'y reviens, c'est un peu une forme de honte, de se dire oh là là, si je baisse les bras, j'abandonne les copaines, je suis un ou une moins que rien. Il faut absolument lutter contre ce sentiment-là.
Ouais, non, c'est important. Mais c'est vrai que j'ai tellement dérangé de monde, entre guillemets, à contacter toutes les associations du coin, toutes, même celles qui n'avaient pas de lien direct avec le canal à grand gabarit. C'est vrai que de se prendre beaucoup de portes fermées, ça a été assez violent. Et c'est vrai qu'après, quand on prend du recul, on se dit, ben, moi j'ai dérangé plein de monde, et puis maintenant, j'ai pas envie qu'on me dérange là, pour le moment, quoi. Et c'est vrai que c'est très culpabilisant. On a l'impression d'avoir...
Une trahison?
Ouais, presque, en fait, c'est ça qui est terrible. Ouais, on a l'impression de trahir ce qu'on a voulu mettre en place, en fait, aussi, quelque part. Donc,
ce truc de, on allait les faire la leçon aux autres, et puis finalement, une fois qu'on a bien prêché la bonne parole, on fait rien de ce qu'on a dit.
C'est un peu de ça, c'est exactement ça, même. C'est très culpabilisant de craquer, c'est terrible, parce qu'en plus on craque déjà, donc c'est dur. Et en plus on se met soi-même une pression un peu forte sur un moment où il ne faut pas se poser la question, en fait, il faut prendre un peu de recul et puis revenir quand ça va.
Écoute, merci d'avoir le courage de parler de ça, parce que c'est pas évident. Tu n'es pas la seule à vivre ce truc-là, et il y a peut-être aussi ce truc d'isolement. Et les gens qui subissent aussi ce mal-là ont l'impression aussi d'être les seuls à être touchés, alors que pas du tout.
On voit les gens autour de nous, on les trouve très forts, et effectivement, on se sent, nous, tout petits et inutiles.
Il y a peut-être aussi un petit machin à déconstruire. Les manifs ou la lutte, ce n'est pas des concours de bravoure. Il ne s'agit pas de montrer qu'on est plus costaud ou plus je ne sais pas quoi que les autres. Enfin, il y a peut-être aussi un truc de... Je ne sais pas si c'est de l'orgueil ou... On n'est pas des surhommes et des surfemmes.
J'ai toujours été plutôt dans l'idée de tirer la sonnette d'alarme que d'être le moteur de quelque chose. Et je pense que ça venait aussi un peu de là, moi, mon burn-out, c'est que ce n'est pas la première fois que j'agis pour protéger ce que j'aime autour de moi. Et la fois d'avant, ça avait été très vite repris et ça m'allait très très bien, en fait. Parce que je n'ai pas la connaissance et les ressources de comment engager une lutte efficace et que d'autres l'ont très bien. Là, ça m'a vraiment fait du bien, la manif d'il y a 15 jours, pour ça, justement, parce que j'ai l'impression que cette fois, c'est bon, c'est parti. Mais moi, je n'ai pas cette envie d'être spécialement sur le devant de la scène. Ce n'est pas mon domaine. J'ai toujours été plutôt technicienne dans le spectacle. Je ne suis jamais montée sur les planches et ça m'allait très, très bien. Et ça me va que d'autres le prennent. Et je pense que c'est les rôles les plus durs. C'est pas, je ne suis pas certaine que ce soit une question d'ego, ceux qui sont vraiment devant, parce que c'est eux qui prennent le plus aussi, et le plus cher, et le plus difficile à supporter. Et moi, je ne pense pas avoir cette force-là. Et je suis très, très admirative de ceux qui le font et qui le sont. Je vois mon rôle là pour la suite comme une petite cloche qui sonne, ou un trait d'union. Là, voilà. Essayer juste de faire s'écouter les gens, les gens d'ici avec les gens d'ailleurs. Je pense que c'est ce que je pourrais, moi, apporter de plus beau à tout ça.
En tout cas, je le redis, merci à toi de faire cet effort qui te coûte certainement de parler dans ce micro, parce que tu nous le dis, c'est vraiment pas ton truc. Merci pour cette envie de partage de ton expérience et puis cette mise en garde aussi de bon, les copaines, prenez soin de vous, en fait, on a besoin de vous en bon état. Voilà, vous avez le devoir de prendre soin de vous et d'être bienveillant et bienveillante avec vous-même et les autres.
Tout à fait, ben écoute.
Et finalement, j'ai oublié la question fondamentale et peut-être la plus importante pour clore cette conversation. Là, on est fin octobre 2025. Comment ça va, Hélène? Comment vas-tu aujourd'hui?
Beaucoup mieux. un petit peu fatiguée, là. Je me remets du coup de la... Il m'a fallu une dizaine de jours là pour me remettre physiquement de la manifestation. Mais par contre, ouais, au niveau du moral, beaucoup mieux par rapport à cette cause. J'ai beaucoup pleuré dimanche. Il y a 15 jours à la manifestation, en écoutant divers témoignages, j'étais très 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 touchée de tous ces gens rencontrés.
Tu as l'injonction de prendre soin d'Hélène, qui le mérite bien. Donc merci d'être en forme, de t'occuper de toi et de te cajoler. Parce que sans toi, la lutte, elle serait pas pareille. Merci de rester sur le pont et de faire ce qu'il faut pour ça.
C'est gentil, merci à toi.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette balade au bord de l'eau. À télécharger sur notre site polemixetlavoixoff.com où vous retrouverez notamment d'autres reportages méga canal non merci. Merci aux copains de l'expédition Bateau Labo qui a permis cette émission. Et on se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée. On se quitte avec Jean Gabin dans La Belle Équipe, tournée en 1936 par Jean Duvivier. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Du lundi jusqu'au samedi, pour tailler les radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, vous paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met à l'envers et le bonheur nous souffle pour pas faire. La gueule est belle, la belle, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Venez les gens cafardeux qui tout le temps sont des cheveux et restent aussi les railleurs dans un monde meilleur qui dépense des temps d'oseilleurs pour découvrir les merveilles. Un moins cassé de l'auteur car il n'y a pas besoin de trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher loin.
Tous ensemble on
fait
du boudin, qu'on s'habite, en avant la musique.